Soyez les bienvenus à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence. Aujourd'hui, nous allons voyager grâce à la musique avec aujourd'hui un chef d'orchestre qui est aussi organiste. J'accueille à ce micro Gaëtan Jarry. Bonjour.
Bonjour.
Lorsque vous étiez enfant, par quoi étiez-vous le plus passionné ? Devenir organiste ou chef d'orchestre ?
Alors les deux. Jouer d'un instrument parce que je suis organiste et j'ai l'impression d'avoir toujours fait de l'orgue parce que j'étais les fesses sur un banc d'orgue dès mon plus jeune âge parce que mon père jouait l'orgue à la messe. J'étais vissé sur le banc parce que j'étais peut-être un peu turbulent pendant la messe. C'était là que j'étais le plus sage. Alors j'adorais le dimanche regarder, un peu toucher les boutons, de temps en temps ça devait s'entendre. Et puis diriger un orchestre parce que pareil, depuis mon plus jeune âge, j'ai n'importe quoi dans la main qui me faisait office de baguette et je passais ma vie à avoir de la musique dans la tête et à la diriger. Même dans la cour de récré, souvent on se fichait de moi parce que je déambulais en faisant le chef d'orchestre.
Gaëtan Jarry, si vous aviez à écrire la partition musicale de votre vie, quel en serait le rythme ?
Si je faisais la photographie du rythme actuel de ma vie, on serait sur un allegro très, très vivace même. Parce que c'est un petit peu effréné en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de projets. J'ai la chance de donner mon premier opéra de Mozart à l'Opéra Royal de Versailles à la fin du mois. On va faire les Noces de Figaro avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Donc ça, c'est, on va dire, un assez gros défi pour moi, parce que c'est un morceau d'anthologie assez conséquent. Et là, cette semaine sort aussi un disque d'orgue, de concerto pour orgue de Handel avec orchestre, et donc avec Marguerite Louise aussi, que je dirige en jouant de l'orgue.
Et en tant que musicien, pouvons-nous parler de fausses notes lorsqu'on parle d'une vie ?
Une fausse note, n'est pas rédhibitoire, ni dans la musique, ni dans la vie. Une fausse note, c'est le propre du concert, donc du spectacle vivant, donc de la vie. Et une vie sans fausse note, ça n'existe pas. Seule peut-être la Vierge Marie n'a pas eu de fausse note dans sa vie.
Les touches et les notes ont-elles toujours été le prolongement de vos doigts ?
Pas que les touches et les notes, j'ai aussi une petite tendance à la batterie, instrument auquel je m'adonne régulièrement depuis aussi ma tendre enfance. Et alors quand mes doigts ne remuent pas pour s'imaginer un clavier, souvent ils tapotent.
Des doigts pour écrire, des doigts pour peindre, pour jouer, pour diriger un orchestre.
Absolument.
Une œuvre d'art déjà que votre corps et que les doigts.
Oui, le corps du chef est en mouvement. Le mien, je veux dire un petit peu particulièrement parce que je suis assez plutôt expressif en dirigeant. Certains me taxent de gesticulateur, d'autres plutôt de danseur. Et c'est vrai que, alors souvent je dirige de l'orgue positif. Donc imaginez un petit orgue que l'on place devant l'orchestre. Donc mes mains sont prises, alors il faut que le reste du corps soit mis à contribution. Donc ça le fait onduler un petit peu plus que quand on a les deux bras libres.
Allons au cœur de la vie d'un instrument qui vous passionne aussi, l'orgue.
Oui.
C'est une passion, une révélation, un mystère que cet instrument situé entre ciel et terre, souvent au-dessus du portail d'un édifice.
Oui, il y a ce mystère parce que c'est un instrument, comme vous dites, un petit peu sur son jardin suspendu de tribune. C'est un instrument pour lequel on ne voit pas le musicien qui le joue, l'organiste est caché, donc ça confine à ce mystère. Voilà, de cette masse tout à fait placide et olympienne qui vous déverse quelques flots de notes dans les oreilles et puis qui a cette mission particulière aussi d'être vecteur entre l'homme et Dieu.
Avec ces angelots qui sont sur les buffets d'orgue.
Absolument. L'orgue, traditionnellement, dans la tradition française en tout cas, prend la place des anges. C'est pourquoi il répond notamment toujours au Gloria. Et c'est d'ailleurs pourquoi aussi dans la tradition de l'orgue français, on n'a pas d'orgue au credo. Parce que le credo, c'est les hommes et le Gloria plutôt les anges. Et alors du coup, l'orgue se taisait au credo dans la musique baroque française.
Un passeur vers le sacré, que cet instrument qu'est l'orgue, une élévation ?
Toutes les missions de l'orgue au sein de l'Église sont celles de l'élévation. La première, c'est déjà magnifier la liturgie. La deuxième, c'est faire cette passerelle, ce vecteur, ce véhicule de la prière des hommes vers Dieu. Donc oui, vraiment une mission élévateur, ascenseur. Puis une mission de béquille aussi, quand il porte le chant. Commentateur aussi.
Et commentateur.
Commentateur de la parole de Dieu. Voilà, c'est peut-être la dernière mission de l'orgue au sein de la liturgie.
Alors comment est-ce que l'orgue commentait la parole de Dieu ?
L'organiste, avant de jouer, se nourrit des textes et à partir de ces textes-là, essaye de coller au plus proche, essaye de procéder à une sorte de transcription sonore des mots de la Bible, une évocation à des thèmes qui seront peut-être déjà connus du fidèle ou à des timbres particuliers ou à une ambiance particulière. On va tout faire pour essayer de coller un maximum au texte.
Parlons texte, parlons thème aussi, avec Noël. Si vous aviez à nous parler de ces différentes partitions qui peuvent se trouver à proximité de l'orgue lorsque vous les allez jouer peut-être pour la messe de la nuit de Noël ou ce temps de Noël, quelles sont vos partitions fétiches que vous aimez faire résonner dans ces édifices?
Vous savez, il n'y a quasiment pas une tribune d'orgue en France où vous ne trouvez pas... le bouquin des Noëls de Daquin ou de Balbâtre, voilà, qui sont donc ces Noëls sur ces thèmes populaires qui font aussi cette exception de la musique sacrée de Noël à l'orgue en France. C'est vraiment une tradition française. Vous savez, ces Noëls qui nous viennent de cette tradition de ce qu'on appelait les évents, qui étaient des petites bandes de hautbois, qu'on appelait des ménétriers, des maîtres à jouer de la musique. Et ils se promenaient au pied des chaumières et dans les rues, et ils essayaient de propager cette littérature musicale populaire qui était les chants de Noël, qui à l'origine étaient vraiment des chants qui venaient de toute la France, de Bourgogne, du Poitou, d'Occitanie, sur lesquels on posait des paroles sur le saint avènement. Quand Dieu naquit à Noël, Joseph est bien marié, et autres.
Selon vous, Gaëtan Jarry, vous qui êtes aussi organiste et chef d'orchestre, est-ce que la partition sera interprétée de la même manière si nous parlons de partition de musique sacrée, si la personne est croyante ou non ?
Moi, j'ai déjà fait l'expérience d'entendre des organistes, notamment, je parle dans mon domaine, qui n'avaient que faire de leur rôle et qui étaient très très forts, qui vraiment jouaient très très bien, mais qui étaient totalement déconnectés avec leur mission spirituelle. Voilà. Après, il y a plusieurs spiritualités. Il y a la spiritualité qui se rapproche de la foi de l'Église, et puis tout simplement la spiritualité qui est celle d'élever l'âme. Et pour ça, un artiste est obligé d'avoir ce petit plus s'il veut que sa musique ait une destination.
Qu'est-ce que cela vous fait de rendre présentes aujourd'hui des œuvres qui ont été écrites par des maîtres comme Bach ?
Au même titre que l'orgue est un passeur entre ciel et terre, nous sommes des passeurs de la musique de génération en génération. Cette musique écrite est vraiment conçue pour perdurer, sinon elle ne le serait pas. Vous savez, l'orgue, il y a deux facettes. Il y a aussi la part de l'improvisation prend beaucoup dans le métier de l'organiste parce que tout simplement la liturgie est mouvante, donc on doit s'adapter souvent un petit peu à la seconde près selon le temps de l'encensement. Donc on doit s'adapter un petit peu à la seconde. Pour ça, c'est plus facile d'improviser que de jouer de la musique écrite. Et lorsque l'on joue de la musique écrite, voilà, à la fois nous sommes témoins de vraiment un patrimoine et à la fois la musique écrite n'a pas nature à être morte. Vraiment, nous sommes là pour la faire vivre.
Et c'est ce que vous exprimez aussi en tant que chef d'orchestre.
Je dis souvent qu'on n'est pas des autopsistes de la musique, mais plutôt on cherche vraiment à la ressusciter. Et qui dit la ressusciter dit toujours, toujours, constamment essayer de rechercher le souffle dans la musique écrite. Moi, je dirais que vous me parliez tout à l'heure du titre de la partition de ma vie. Elle pourrait s'appeler « Le souffle ».
Et puisque vous parlez de souffle à l'instant, Gaëtan Jarry, que vous inspire cette note sur une partition musicale qu'est le silence ?
Le silence sert à reprendre souffle. Le silence a toutes les fonctions. Il a celui vraiment de pause, où il va pouvoir permettre, lorsqu'il y a une pause, de peut-être méditer sur tout ce qui vient d'être chanté ou joué. Le silence peut être plus court, peut servir notamment à une levée. Vous savez, quand on a un quart de soupir avant une croche, ça veut dire que le chant doit partir. Et donc, il a vraiment cette vocation à reprendre le souffle. Et puis, le silence, souvent, est la plus belle des musiques parce qu'elle laisse place entièrement à la musique intérieure.
Et j'imagine que vous êtes également sensible à un instrument portatif que tous nous possédons pour la plupart, à savoir les cordes vocales qui nous permettent de parler, de chanter.
À moi, s'il n'y avait pas le chant dans la musique, je ferais autre chose. Parce que on parlait du souffle et de la vie. Rendez-vous compte ce que c'est que d'avoir un instrument vivant. La voix est le seul instrument vivant. C'est extraordinaire. Et alors pour faire revivre toutes les pages de musique, faire revivre avec la vie intrinsèque du musicien, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Après, le problème d'un instrument vivant, c'est le tempérament. Souvent, quand on travaille avec des chanteurs, on doit gérer, du coup, de façon totalement dépendante l'une de l'autre, le musicien et son instrument, qui est souvent une seule et même personne. C'est pour ça que les chanteurs sont souvent un peu d'excentricité, un petit peu d'égocentrisme, un petit peu. Donc, le chanteur, faut toujours le caresser dans le sens du poil, parce que son instrument est tellement important pour lui, vu que c'est sa vie, vu que c'est lui-même. Il faut être très vigilant à ne jamais le heurter. Voilà, c'est quelque chose de une science sociale même. C'est quelque chose de très très intéressant. Moi, j'aime énormément travailler avec des chanteurs pour ça.
Donc, vous êtes fondateur, chef fondateur de l'ensemble Marguerite Louise. Vous êtes organiste. Vous êtes passionné par cet instrument qui est l'orgue. Vous êtes notre invité pour ce jour, Gaëtan Jarry. Vous jouez aussi pour des liturgies. Une liturgie n'est pas un concert. De quelle manière, au cours des offices, communiquez-vous entre la tribune, les officiants et l'écho dû à l'édifice?
Notre métier d'organiste professionnel, c'est aussi de communiquer avec une liturgie qui est menée souvent par des mains d'amateurs. Donc il faut aussi faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que on n'est pas là, comme vous dites, ce n'est pas un concert, on n'est pas là pour briller au service d'une liturgie. Et donc on est là vraiment pour aider les forces vives de la paroisse, quand bien même leur niveau est souvent pas tout le temps extraordinaire. Il y a quelques chefs de chœur amateurs ou animateurs très 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 bons, hein. Il y a un peu de tout, mais on est là vraiment pour les soutenir et aider l'assemblée. Voilà. Et puis après, en effet, oui, ce n'est pas un concert, on est là pour porter la prière. L'orgue est derrière aussi, donc il est entre ciel et terre sur sa tribune, mais surtout il est derrière, il n'est pas là pour être en vue, il est cette main dans le dos
qui va
aider à accompagner le fidèle sur son chemin de foi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà. Et le fait de ne pas être vu aussi, j'aime beaucoup ça, parce que il aide beaucoup à cette humilité. Je n'ai pas envie de me montrer quand je sers Dieu. Voilà.
Comment faire corps avec plusieurs instruments pour qu'une symphonie puisse naître, Gaëtan Jarry?
L'orgue a cette particularité, à la différence du n'importe quel autre instrument, de ne pas être basé sur une stéréotypie. Chaque orgue est différent. Chaque orgue va avoir un nombre de claviers différents, un nombre de jeux différents, des timbres de jeux différents, des noms de jeux différents. Et en fait, l'organiste, à chaque fois qu'il passe d'un instrument à l'autre, doit totalement se réadapter. Alors, en même temps, il y a un terrain commun, donc c'est pour nous, au bout d'un moment, on commence à avoir un peu des automatismes et à aller à l'essentiel. Chaque orgue aussi a son toucher différent. Il y a des orgues avec un toucher vraiment extrêmement rebondissant. Souvent, on souffle et l'orgue joue tellement ils sont légers. Et puis d'autres sur lesquels il faut mettre tout son corps quasiment pour jouer.
Et selon vous, un organiste est-il un artisan de la musique ou un artiste?
L'organiste, en plus d'être artiste ou musicien ou tout je ne sais quoi, voilà, il est surtout artisan. Il doit forger le son, vraiment investir son corps pour mettre du poids. Quand on accouple tous les claviers, il est extrêmement dur à jouer. Les jeux pour les tirer, il y en a qui sont hauts, alors vous savez, voilà, des tirants de registre souvent très, très 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 loin. Donc pour faire corps avec cet instrument, faut déjà avoir l'habitude de l'instrument, c'est vrai que ça aide. Donc choisir ses registrations avec finesse pour rendre le mieux justice possible à la musique que l'on va défendre.
Et une musique que vous allez défendre en harmonie avec un autre métier dont vous avez aussi besoin comme organiste, les facteurs d'orgue.
Sans les facteurs d'orgue, il n'y aurait pas d'organiste, parce que ils les bâtissent, voilà. Et c'est un métier extraordinairement complexe. Vraiment, la machine orgue est d'une immense complexité. Un orgue a des milliers de tuyaux, mais il n'y a pas que les tuyaux. Il y a des pièces de toute taille, vraiment par milliers, des boulons, des vergettes, une soufflerie, un sommier, des faux sommiers, des registres. Il y a cette culture de l'esthétique aussi. Les facteurs d'orgue construisent des orgues selon des esthétiques très particulières. Et puis, ils sont aussi les mécanos des orgues, parce qu'ils ne font pas que construire des orgues, ils les maintiennent en état. C'est comme les pilotes. Mon père est pilote de chasse. Il disait à ses mécanos qu'il leur devait la vie. Voilà, parce que sans les mécanos, les avions ne voleraient pas. Et ben c'est pareil, sans les facteurs d'orgue, il n'y aurait pas d'orgue le dimanche.
Aller au cœur de la vie d'un orchestre ou de cet instrument qu'est l'orgue, c'est quoi pour vous, Gaëtan Jarry ?
À l'orgue, je dirige une machine, c'est facile. Comme vous disiez tout à l'heure, les touches sont les prolongements de mes doigts. Quand on a des humains en face de soi, ça prend une dimension tout à fait différente, dans la mesure où il faut justement essayer de canaliser tout le monde dans un souffle commun.
Et dernière question, imaginons qu'il y ait un grand orgue dans l'éternité, avec qui au clavier ?
Je pense que Bach est au grand orgue. Après, il faut voir qui est à l'orgue de cœur. Moi, je veux bien être à l'orgue de cœur, juste pour avoir la chance de dialoguer avec lui.
Merci Gaëtan Jarry pour ce temps accordé à Tendance Ouest.
Merci à vous.
Podcast by Tendance Ouest.